France Musique. Musicopolis. Musique en Europe, un bien commun. Chapitre 1, notre commun musical commence au Moyen Âge. Il y a de multiples manières d'aborder le sujet de la musique en Europe. J'ai envisagé, par exemple, de le traiter par le prisme des transports. Comment les musiciens et les musiques se déplacent partout depuis toujours, à pied, à cheval, en bateau, en diligence, en train, en avion. Ou bien par celui des styles et des genres. Le chant grégorien, la polyphonie, l'opéra, le quatuor à cordes. Ou par les publics. Les fidèles à l'église, les danseurs au bal, les amateurs à la maison, ou même par les guerres innombrables qui propagent aussi la musique et font se rencontrer les musiciens, ou encore par grandes inventions, la notation musicale, l'imprimerie, le développement de la facture instrumentale. J'aborderai certainement tout ça, mais en fait, je vais plutôt commencer par les symboles. France Inter, 9 juillet 1971, vers 8h10.
L'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven sera le futur hymne européen. Le Conseil de l'Europe vient de le proposer à ses 17 États membres. Le choix des paroles sera fait. Bien sûr, ultérieurement, ce sera plus difficile.
Ah, certes, nettement plus difficile le choix des paroles, puisqu'en 2024, il n'a toujours pas été réalisé. Mais n'allons pas si loin et restons sur France Inter. Nous sommes un an plus tard, le 5 mai 1972.
Interactualité Magazine, Yves Mourouzi.
Bonjour. Europe, 8e journée de l'Europe, aujourd'hui pour M. Chaban-Delmas, cette fête populaire des 17 pays européens symbolise l'union de tous les Européens et donne aux jeunes générations l'image d'un avenir où la raison n'exclut pas espoir et enthousiasme. Et à propos de cette journée de l'Europe, a signalé la sortie en disque de l'hymne européen enregistré par Herbert von Karajan et l'Orchestre Philharmonique de Berlin.
Longtemps, on avait cherché un hymne qui célèbre l'Europe et devienne son symbole musical. Déjà, avant même la création du Conseil de l'Europe en 1949, le choix de Beethoven et de son ode à la joie paraissait cocher toutes les cases. Je vous renvoie au livre d'Esteban Busch sur la 9e de Beethoven, une histoire politique, sortie en 1999, pour en savoir plus. Ah, ça pulse! Quelle énergie, quelle pêche! On entend ici non pas la version Karajan, instrumentale, plus lente, mais une version enregistrée en 1992 par le chœur Monteverdi et l'orchestre révolutionnaire et romantique dirigé par John Eliot Gardiner. Et donc, le choix de Beethoven pour un hymne européen peut paraître absolument naturel. Lui qui semble avoir depuis le 19e siècle une aura universelle. Universelle dans une optique européenne, bien sûr. Il est l'homme, l'artiste, le musicien qui, par sa force intérieure et son génie créateur, peut transcender sa condition humaine, imparfaite et tragique, et par conséquent être une inspiration pour tous les Européens.
Wie ein Held zum Siegen, glaube, Brüder, eure Wahrheit.
Voilà de quoi réunir et entraîner la foule des Européens, n'est-ce pas? Pourtant, un petit détail pose problème. L'arrangement instrumental qu'on écoutait tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de parole dans l'hymne européen, vous l'avez compris, est dû à Herbert von Karajan, dont les relations avec le parti nazi sont avérées. Non seulement c'est Herbert von Karajan qui a fait l'arrangement, une simple transcription pour orchestre de la partie chantée de l'Ode à la joie, mais pour les organismes de droit d'auteur, c'est lui qui est le seul auteur de l'hymne européen, Beethoven étant depuis longtemps dans le domaine public. Ce qui crée, si je puis me permettre ce terme de psychologie sociale, une certaine dissonance cognitive. Bon, je n'irai pas plus loin sur ce terrain, chacun se fera une opinion. Pour ma part, je reviens à mon sujet. Traiter de la musique en Europe en partant des symboles. D'autres musiques auraient pu atteindre ce statut de symbole avant la création de l'hymne européen en 1971. Par exemple, cette œuvre de 1862. C'est pour l'exposition universelle de Londres de 1862 que Verdi, à côté d'autres célèbres compositeurs européens, Meyerbeer, Auber et Sterndale Bennett, a été chargé d'écrire une musique festive. Il a choisi de composer un hymne sur un poème du tout jeune Arrigo Boito. Ici encore, il s'agit d'appeler à la paix et à l'amitié entre les peuples. « En ce jour heureux, dit le texte, le monde exulte de joie, car le règne de l'amour est proche. Gloire, l'avenir s'en souviendra en chantant. » Le texte de Boito n'est pas un hymne européen à proprement parler, puisqu'il a pour titre « Hymne des nations ». Néanmoins, le texte réunit les nations, tout comme le fait la musique, puisque Verdi cite « le God Save the Queen », la Marseillaise et le Fratelli di Italia, un chant qui a réuni les partisans de l'unité italienne et qui est aujourd'hui l'hymne italien. Après avoir entonné les hymnes nationaux séparément, Verdi les superpose et il les réunit dans une apothéose qui symbolise la fraternité des peuples. Cette version de l'hymne des nations, qu'on entend ici dirigée par Arturo Toscanini en 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale donc, étant encore le symbole de fraternité et de réunion des peuples, puisque le chef a ajouté deux chants symboliques de nations alliées, l'international pour l'URSS et le Star Spangled Banner pour les USA. Voilà un peu loin de notre sujet. Si ce n'est qu'en 1943, lorsque Toscanini a enregistré cet hymne des nations à New York, Il faisait partie de tous ceux qui avaient dû quitter l'Europe pour échapper au fascisme et au nazisme. Et ses chants patriotiques participaient symboliquement à la réunion des exilés européens. Cette fanfare qui introduit l'opéra Orfeo de Monteverdi est aussi l'indicatif de l'UER, Union Européenne de Radio. Un autre symbole musical européen, tout comme celui-ci. Allez, c'est le dernier, promis, après j'arrête et on passe aux choses sérieuses. Après la Deuxième Guerre mondiale, le prélude du Tédéum de Marc-Antoine Charpentier a servi d'indicatif aux retransmissions en Eurovision pour les toutes premières réunions des Européens devant des événements exceptionnels. Pas pour le premier d'entre eux, le couronnement d'Élisabeth II en 1953, mais dès l'année suivante, avec la création de l'organisme international qui devait fédérer les Européens, notamment devant un concours de chansons, lui aussi grand symbole musical européen. Bon, je vous ai dit que nous allions revenir aux choses sérieuses, il est temps. Le sujet de cette série, je vous l'ai dit, c'est la musique en Europe. Alors pas une histoire de la musique en Europe qui coïnciderait pour sa plus grande part avec l'histoire de la musique occidentale, notre fonds de commerce sur France Musique. Le problème avec tous les récits de cette histoire, c'est qu'ils mettent l'accent sur les pays, l'un après l'autre, avec leurs différences. Ce que je voudrais ici, c'est au contraire pointer ce qui est semblable, en quelque sorte le commun musical européen. Même si, bien sûr, je vais être obligée aussi de signaler des variations régionales. Une chose est sûre, c'est que je ne pourrai commencer mon propre récit que à un certain moment, durant le premier millénaire de notre ère. Un moment que je ne peux pas définir au jour près, mais aller, disons, vers la fin du VIe siècle. Et ça parce que le pape Grégoire le Grand est élu en 590. Grégoire, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose comme pape, mais vous connaissez l'adjectif qui va avec « grégorien ». La religion chrétienne est autorisée depuis 313. Et les chrétiens ont passé tout le IVe siècle à fixer la liturgie de la messe. La musique a été d'abord celle de la synagogue, puis avec la création de nouveaux textes, on a créé de nouveaux chants. Le pape Grégoire, lui, va établir l'ordre de succession des pièces des services. Et puisqu'on ne prête qu'aux riches, la légende lui a ensuite attribué l'élaboration des mélodies du plain chant, appelé pour cette raison « chant grégorien ». On le représente même en train de dicter à son secrétaire les neumes, les petits motifs mélodiques que lui chante l'Esprit-Saint sous la forme d'une colombe. En fait, ce répertoire s'est constitué bien après Saint Grégoire. Alors que chaque région chantait jusque-là d'une manière distincte, le besoin s'est fait sentir d'une unification. Ce sont les rois carolingiens, Pépin puis Charlemagne, qui imposent le chant dit romain dans tout leur empire, pour des raisons de politique intérieure et extérieure. Et là, on est déjà au 9e siècle. Même si la frange cultivée des royaumes des rois barbares sur le territoire de l'Europe médiévale connaît et respecte la culture gréco-latine, Pour tous les êtres humains européens, de base, si je puis dire, ce qui est commun alors, c'est l'appartenance à la religion chrétienne, qui est de fait obligatoire depuis que Théodose Ier, en 395, a déclaré le christianisme religion officielle et qu'il a de fait interdit les autres. Par conséquent, bientôt, autre commun, le fait d'entendre à l'église le chant grégorien, en latin, partout, d'un bout à l'autre du continent. Partout, partout ? Non, pas vraiment. En effet, pendant que le répertoire latin se formait sur la partie ouest du continent, correspondant à l'Empire romain d'Occident, du côté de l'Orient se développait un chant byzantin en grec. Mais restons-en donc au grégorien latin. Le chant grégorien, ou plein chant, s'est élaboré peu à peu, s'inspirant de mélodies du culte hébraïque et des chants psalmodiés de l'église des premiers chrétiens, d'origine populaire pour la plupart. Ce chant grégorien est monodique, une seule mélodie, chantée à l'unisson et souvent lancée par un chantre solo. Comme le répertoire liturgique a été déclaré fini et que les capacités d'invention des musiciens sont, elles, infinies, des nouveautés vont tout de même apparaître. Comme par exemple de mettre de nouvelles paroles sur les longues vocalises de l'Alléluia pour les retenir plus facilement. Mais comment, me direz-vous, en un temps où les voies de communication sont dangereuses, longues et difficiles, comment ces inventions se propagent-elles sur tout le continent ? Eh bien à pied, ou peut-être à cheval, tout simplement. Par exemple, grâce à un récit de Notker Lebeg, moine de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse, on sait qu'il avait connu ces petits ajouts de texte sur les notes de l'Alléluia par un autre moine venu de l'abbaye de Jumièges en Normandie. D'après mon appli, les 773 km que représente la distance entre Saint-Gall et Jumièges se font à pied en 260 heures. Ce qui, en admettant qu'on marche 8 heures par jour, ne fait jamais que 32 jours et demi. J'ajoute que la zone de confort de l'humain médiéval était certainement moins restreinte que la nôtre et qu'il avait l'habitude de marcher, n'ayant ni bicyclette ni voiture et souvent pas de cheval non plus. Ces rajouts de textes et de musique sur le répertoire de chants grégoriens se pratiquent un peu partout à partir du 9e siècle, dans de grandes abbayes, à Jumièges et à Saint-Gall donc, puis à Saint-Martial de Limoges, et aussi en Angleterre. Et partout, on prépare des manuscrits qui seront transportés loin, parfois même très loin de leur lieu d'origine, ce qui permet de diffuser ces nouveautés musicales. Dès le 9e siècle, par exemple, on chantera une deuxième voix, une deuxième mélodie, en même temps que la première. Cette deuxième voie, dans un premier temps, se déroule note contre note, punctum contra punctum, ce qui donnera le mot de contrepoint. « Le monde médiéval européen est théocentrique. Dieu est au centre de tout. Toute la société, toute la pensée s'organise autour de l'idée de Dieu. La construction sociale et spirituelle du monde des hommes se dispose circulairement autour de l'idée et de l'image de Dieu. Et la musique a une place centrale parce qu'elle est un moyen de communication privilégié avec Dieu. Il est donc logique que pour communiquer encore mieux, les musiciens aillent de plus en plus loin dans leur expression. Par exemple, en augmentant le nombre des mélodies qu'on entend simultanément pour créer ce qu'on appellera dorénavant la polyphonie. L'humain médiéval européen est très proche de la nature. La plus grande partie de la population vit à la campagne et au lieu des moteurs, machines électriques, radio, télévision qui sont notre quotidien, lui entend des grognements d'animaux, des chants d'oiseaux. Son environnement sonore est paisible. L'humain médiéval n'est pas allé à l'école, hormis quelques religieux, souvent dans des monastères. Il ne sait ni lire ni écrire, il n'a aucune culture dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. En dehors de ses connaissances paysannes et de ce qu'on lui dit à l'église, qu'il n'a aucune raison de mettre en doute. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, pour se réjouir ou se consoler, il ne dispose ni d'excitant ni de calmant. Il a le vin, la prière, le chant et la danse. Les musiques de danse les plus populaires qu'on trouve partout en Europe ont bien sûr des caractéristiques régionales. Alors que les musiques les plus savantes, comme l'organum de Perrotin que nous écoutions juste avant, sont issues de lieux assez privilégiés, de grandes cathédrales qui disposent de chœurs et de maîtrise et d'un enseignement à la pointe. Perrotin, lui, est magister à Notre-Dame de Paris et sa musique, transportée à pied ou à cheval par d'autres musiciens, se diffusera à son tour dans de grandes abbayes ou d'autres grandes cathédrales. Le Videunt Omnes, organum à quatre voix de Perrotin le Grand, par le Early Music Consort of London, dirigé par David Munro. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont évidemment sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Dans le deuxième épisode de cette série, nous poursuivrons notre voyage jusqu'à la Renaissance. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Tahar Bouklifa et Dofar Guérid pour le mixage, Léa Gramusset pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.